On est toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et nous sommes avec maintenant qui est quelqu'un qui devient un habitué de nos ondes, le professeur Norman Cornette. Bonjour professeur.
Bonjour mademoiselle Touré et merci pour l'invitation de Choc FM.
Merci à vous. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui de ce qui se passe un petit peu aux États-Unis. Donc nous on est les voisins mais on est un peu éloignés de toute cette situation. Et là récemment il y a eu plein d'événements notamment avec par exemple les Black Lives Matter, gens, des meurtres, des meurtres aussi des policiers. Ce serait bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de ce qui se passe, on va dire, depuis à peu près un mois aux États-Unis?
Oui, mais justement, je suis en tant qu'Américain, né au Texas en 1950. Oui. Je suis de très près, d'autant plus que je suis historien. Mmh. Et ce qui me frappe dans les événements malheureux, que ce soit à Baton Rouge, dans la Louisiane, que ce soit à Minneapolis, dans le Minnesota, et vous venez de mentionner Black Lives Matter, c'est de voir les parallèles de ma génération avec la guerre au Vietnam. C'est que il y avait tellement de soldats qui sont revenus du Vietnam et il y a eu beaucoup d'incidents. Et gardons en tête pour l'auditoire de Choc FM qu'il y a 3 millions d'Américains qui dans les forces armées militaires en Afghanistan, en Irak. Alors, et puis, nous savons tous que les armes, y compris les armes d'assaut, sont accessibles à tous et chacun, à toute fin pratique aux États-Unis. Et avec les tensions actuelles, c'est important de voir le... Même s'il y a un président afro-américain actuellement aux États-Unis, ce qui avait frappé les soldats en revenant du Vietnam, là où ils ont mis leur vie en jeu, et souvent ils sont revenus estropiés, amputés, j'aime pas dire ça, mais c'est la réalité, et traumatisés.
Surtout.
Eh bien, quand ils reviennent aux États-Unis et qu'ils voient qui constatent, et eux qui ont mis leur vie en jeu, quand ils constatent l'écart entre les Noirs et les Blancs, pour ne pas dire le gouffre, c'est énorme. Et j'invite l'auditoire de Choc FM à vérifier eux-mêmes, elles-mêmes, le taux de ceux et celles qui sont dans les prisons fédérale aux États-Unis, oui, des Noirs comparés aux Blancs. Ça saute aux yeux. Et quand on parle du niveau de la mortalité, le taux de mortalité entre Noirs et Blancs, quand on parle du niveau de vie économique, du niveau de l'éducation, or ces gens reviennent et eux qui ont tout mis en jeu pour les États-Unis et qui constatent ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'il y a un président afro-américain qu'on a pour autant résolu. Cet écart est aussi énorme que le Grand Canyon. Et je le constate chaque fois que j'y vais aux États-Unis. Et je suis de très près ce qui se passe dans les présidentielles. Et là, certes, on parle du plagiat de l'épouse de Donald Trump. Mm-hmm. Et ça me concerne en tant que professeur. Il y a là la question de la propriété intellectuelle. On parle également des courriels de Hillary Clinton. Ça m'interpelle aussi parce qu'il y a une question d'être honnête, d'être intègre avec le grand public. Mais ce qu'il nous faut entendre, mademoiselle Touré, ce sont des solutions. Quand on voit ce qui se passe à Dallas, quand on voit ce qui se passe à Baton Rouge, quand on voit ce qui se passe au Minneapolis, au Minnesota, la question se pose, mais où sont des solutions? Il faut un projet de société aux États-Unis. Il faut articuler une vision pour réduire cet écart, pour ne pas dire ce gouffre. Or, jusqu'ici, qui parle des solutions? Qui a un projet de société pour pallier à ces grands défis auxquels fait face la société américaine. Et ça je le dis en tant qu'historien, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Il y avait le projet de société le président Lyndon Baines Johnson. Il avait proposé, n'est-ce pas, le Great Society. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a drainé toutes les ressources? Eh bien, Lyndon Baines Johnson s'est engagé dans la guerre au Vietnam. Et regarde ce qui s'est passé. Là, Dr. Martin Luther King Jr., qui était un des chefs du peuple afro-américain, il a dû prendre une décision douloureuse de choisir entre Lyndon Baines Johnson et son projet de Great Society et la guerre au Vietnam, et il s'est prononcé contre la guerre au Vietnam parce qu'il a dit « S'il s'agit de faire une guerre, mais faisons la guerre à la pauvreté. » Et rappelons à l'auditoire de Choc FM, il était assassiné à Memphis, au Tennessee, parce qu'il prenait il épousait la cause des éboueurs. Et justement, il s'est rangé du côté du peuple, du côté des travailleurs, du côté des pauvres. Il dit, nous avons tant de ressources, pourquoi pas mettre toutes ces ressources, ces millions, ces milliards, pour comme solution au défi de la société. Eh bien, c'était le rendez-vous manqué, malheureusement. Et je me souviens très bien, j'habitais aux États-Unis, j'étais à l'université à l'époque. Je terminais l'école secondaire parce que je me souviens où j'étais quand on m'a annoncé la mort de Dr. Martin Luther King Jr. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, le gouverneur de la Californie, quand j'étais à l'université de Californie à Berkeley, c'était nul autre que Ronald Reagan, dont le nom figure sur mon diplôme, je tiens à dire. Eh bien, Ronald Reagan, c'était comme le retour vers l'arrière. Au lieu d'avoir un projet de société, c'est, on va dire, que tout, il faut enlever le gouvernement de la société, il faut laisser cela à chacun. Eh bien, depuis le temps de Ronald Reagan, et Ronald Reagan est le héros par excellence des républicains, d'ailleurs le candidat comme vice-président, le gouverneur Pence, il se félicite d'avoir voté contre « Leave no child behind » en éducation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de projet de société. Tout est sur une base individuelle. Or, les défis auxquels fait face la société américaine, ce sont des défis systémiques. C'est pas une solution individuelle. Quand on regarde les chiffres, les statistiques ne mentent pas. Les Afro-Américains, au point de vue économique, au point de vue éducatif, au point de vue des soins médicaux, au point de vue de l'hébergement, et ça continue, on a là un défi qui va bien au-delà de l'individu. Je veux bien que l'individu soit responsable, mais il y a des enjeux de la société entière. Et qui parle de ces enjeux-là? Qui offre actuellement un projet de société aux Afro-Américains et à tous les États-Unis?
Vous voyez, vous êtes optimiste par rapport au futur par exemple, de la cause des Noirs américains, est-ce que vous pensez que justement quelqu'un va venir et apporter des solutions ou bien comment vous voyez le futur?
Je vous remercie pour la question. Dans un premier temps, oui, je suis optimiste parce que dans mon enfance, c'était l'apartheid. On appelait ça la ségrégation, mais c'était l'apartheid à toute fin pratique. Quand j'étais enfant, Mademoiselle Touré, l'idée d'avoir un président afro-américain était inconcevable. Donc, je constate le progrès qu'on a effectué. Mais il faut aller au fond. Et il faut s'adresser maintenant. Comment se fait-il que tellement de prisons fédérales américaines sont pleines, d'Afro-Américains. Ouais. Comment se fait-il que ces entrechocs entre les autorités et moi, j'ai fait le doctorat en histoire des religions et donc j'appuie la prière. Et puis là, il y a des appels pour la prière, Barack Obama, quand il était à Dallas. Mais je ne peux qu'observer que le président afro-américain des États-Unis s'est rendu à Dallas pour une grande cérémonie de prière pour les policiers, alors que Philando Castile, à Minnesota, c'était un cercueil et un cheval. Mmh. Et quelques centaines de personnes. Et ça veut tout dire, mademoiselle Touré. Ouais, c'est que du moment que le chef des Afro-Américains se range du côté de l'État, dans quelle mesure est-ce que cet État se sert de toutes ses ressources pour pallier aux grands défis des Afro-Américains? Et tant qu'on n'a pas résolu cette question du bien-être de tous les Américains, y compris les Afro-Américains, eh bien, on a beaucoup de chemin à faire. Et ça m'interpelle d'autant plus, mademoiselle Touré, parce que là, vous savez qu'on a fait une pétition pour déclarer Black Lives Matter un groupe terroriste. Wow. Imaginez-vous. Wow. On va les déclarer des terroristes. Eh bien, dans quelle mesure peut-il avoir la dissension? Dans quelle mesure peut-on critiquer l'État et tenir l'État redevable pour les Afro-Américains et leur traitement? Et c'est d'autant, et il y a un changement de paradigme politique, mademoiselle Touré, et c'est que maintenant, en Israël, on le connaît très bien, la sécurité est priorité numéro un. Eh bien, le changement de paradigme aux États-Unis, à cause des événements récents, c'est que la sécurité est devenue la priorité dans la société américaine. Et donc, on parle du terrorisme domestique. Mais du moment qu'on établit la sécurité et ce qu'ils appellent la guerre contre le terrorisme, y compris le terrorisme domestique, priorité numéro un, mais qui va payer? Qui va souffrir de cette priorité? Est-ce qu'on, du fait qu'on veut protester, on veut manifester, qu'on peut faire mieux pour les Afro-Américains, va-t-on taire ses voix dans la société civile américaine?
Wow. Sur cette, ben on pourrait en parler en tout cas avec vous pendant des heures. C'est vraiment un débat qui est à la fois révoltant, mais en tout cas passionnant. Ben merci beaucoup, professeur Cornette. On espère en tout cas voir comment ça évolue là à travers les prochains mois ou les prochains jours, et puis.
Tout à fait. Merci pour l'invitation, mademoiselle Touré. Et je tiens à remercier également Choc FM.
Merci beaucoup, professeur.
Au revoir.
Au revoir. Nous restons sur les ondes de Choc FM 105.1.